France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Maison d'écrivains et d'écrivaines pour ancrer la fierté locale. La maison de Colette à Saint-Sauveur en Puisaye et celle de Georges Sand à Nohant. La maison de Balzac à Paris où il écrit les belles pages de la comédie humaine et celle du général de Gaulle à Colombelles et Deux Églises où il rédige ses mémoires de guerre. La maison de Victor Hugo à Paris, place des Vosges, mais aussi celle de Victor Hugo, Hauteville House, à Guernesey, sans oublier la fantastique maison d'écrivains à Rochefort, car les auteurs et les autrices sont bien lotis.
Baudelaire habitait dans les combles, je crois.
Oui, Hauteville House, Guernesey, c'est la seule maison ayant appartenu à Victor Hugo, la maison de l'exil, achetée après l'énorme succès des Contemplations.
Le cours de l'histoire.
C'est dans cette maison de la rue Charles Dubois que Jules Verne passa 18 ans de sa vie.
Une porte conduisait à cette petite maison au milieu d'un jardin où, de 1840 à 1847, Balzac vécut sa vie gigantesque.
Elle a créé, recréé, non, ce village qui est maintenant un lieu de pèlerinage pour tous les fervents de la littérature française de l'époque du romantisme.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité.
La maison près de la fontaine, c'est celle de Nino Ferrer, avec effectivement une maison près de la fontaine. Cette maison de type anglo-normand se trouve à Rueil-Malmaison. Elle a été vendue en 2023, récemment. Donc c'est une maison qu'on ne peut pas visiter. Celles qui nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire sont des maisons d'écrivains, d'écrivaines devenues musées. Pour nous en parler, Marie-Clémence Régnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université d'Artois. Vous êtes l'autrice de « Vie enclose, demeure éclose », le grand écrivain français en sa maison-musée. Vous publiez ça aux presses universitaires de Rennes. Dites-nous, Marie-Clémence Régnier, sur la couverture de votre ouvrage, il y a des dates. 1879-1937. Pourquoi 1879 ?
Alors ces dates, ce sont les dates qui encadrent en fait le phénomène sous la Troisième République, le phénomène de la jeunesse des maisons d'écrivains, comme on les appelle aujourd'hui. 1879, c'est la date à laquelle est inaugurée la première maison-musée d'écrivains en France. Et 1937, donner le tout, c'est le musée de la littérature qui a ouvert pendant une exposition internationale à Paris. Et qui, me semble-t-il, en fait, apporte des changements. Donc voilà, 1879, première maison d'écrivains en France.
Avec cette première maison en 1879, quelle est-elle ?
Alors, c'est la maison de Corneille, hein, la maison des champs, comme on l'appelait, la maison de Pierre Corneille à Petit-Couronne, en périphérie de Rouen.
En périphérie de Rouen pour cette maison-là, mais ce que je voudrais saisir, Marie-Clémence Régnier, c'est que la visibilité des auteurs, des autrices dans l'espace public n'a pas attendu la maison qui devient musée. Ils étaient présents, ces gens-là, dans l'espace public, nous pouvions les voir auparavant.
Oui, bien sûr. En fait, quand j'ai commencé ma thèse, je pensais même que cette date serait beaucoup plus précoce, en fait. Et le phénomène d'institutionnalisation est tardif. Hein. Donc, le phénomène d'institutionnalisation, c'est-à-dire le moment où on va vraiment voir la puissance publique s'emparer du sujet des collectivités, créer un musée officiellement, l'ouvrir au public, c'est tardif. En revanche, effectivement, les domiciles des écrivains, les intérieurs d'écrivains, qu'ils soient morts ou qu'ils soient contemporains au XIXe siècle, sont présents dans l'espace public tout au long du XIXe siècle et même avant, notamment par la presse, hein, sous la forme, par exemple, de reportages, d'articles commémoratifs. Et quand la presse va s'illustrer, si j'ose dire, hein, autour de la seconde moitié du XIXe siècle, alors là, l'engouement va être d'autant plus important qu'on va pouvoir voir ces maisons, ces intérieurs, qui sont inaccessibles au regard du grand public, puisque seuls les intimes, seuls les initiés, seule la famille ont accès en fait au lieu. Et grâce à la presse, grâce aux reporters, grâce aussi aux intimes qui vont confier leurs témoignages, leurs souvenirs, le grand public pourra accéder à ces intérieurs tant désirés.
avec ici une réflexion sur le statut de l'écrivain, de l'écrivaine. C'est cela, réfléchir à la maison devenue musée. C'est que il y a un nouveau regard porté sur ces gens-là qui pouvaient paraître inaccessibles. L'auteur, l'autrice, c'est quelqu'un qui nous dépasse parce qu'il produit des œuvres, mais on n'en sait pas grand-chose. Et vous nous dites qu'au 19e siècle, il y a une connaissance de la vie de la personne de plus en plus forte et presque une curiosité.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, avant le 19e siècle, plus précisément, en fait, le changement s'opère à la fin du 18e siècle, en réalité. Le grand homme va justement s'humaniser petit à petit et on va l'appréhender sous l'angle privé, sous l'angle de sa vie privée. Et en fait, intériorité, intérieur, intimité vont faire une seule et même chose, en fait. Au final, aux idées contemporaines au 19e siècle, on va considérer que le grand homme est quelqu'un que l'on peut approcher, qui est finalement comme nous, qu'il a une vie intime, qu'il a une vie privée. Et parce qu'il est grand homme, le regard public peut s'inviter chez lui. Et tout l'enjeu, en fait, de la valorisation de sa maison, ça va être de le présenter comme toujours un grand homme avec une vie qui va devoir être un petit peu extraordinaire pour justifier de ce caractère de grand homme. Mais en même temps, il est humain, il est homme. Et la maison permet d'accéder en fait à cette intimité, à cette humanité. Et tout l'enjeu, ça va être de trouver le bon équilibre.
Vous nous avez dit que la première maison d'écrivain en 1879 est celle de Pierre Corneille, fierté locale.
Propriété du département depuis 1874, ouverte au public 5 ans plus tard après restauration, la maison de Pierre Corneille à Petit-Couronne vient de bénéficier d'une rénovation particulièrement réussie.
Mais oui, l'architecte des monuments historiques a voulu rendre à cette maison son aspect maison des champs, plutôt que cette rigidité qui lui avait été donnée au 19e siècle. Et tout a été refait dans la maison, depuis le sol jusqu'au faîte. Et elle a maintenant un mouvement et elle est intégrée au paysage comme elle ne l'était pas il y a quelques années.
Conservateur de ce qu'elle appelle la maison des champs de Corneille, Madame Jacqueline Delaporte y a réalisé une exposition qui, 3 siècles après la mort du poète, rend un peu de chaleur humaine à l'antique demeure.
Nous avons rajouté aux collections permanentes qui sont entrées dès 1879 et un certain nombre d'œuvres importantes. Le seul élément de mobilier qui a peut-être été dans la maison avant que les Guéroux la reprennent à la fin du XVIIIe siècle, et c'est un coffre. Mais on ne peut pas garantir qu'il ait appartenu aux Corneille.
Et ben voilà, donc à Petit-Couronne, on n'est pas très loin de Rouen, nous pouvons visiter la maison de Corneille. Là, nous étions en 1984 avec un coffre. Sans être vraiment sûr qu'il soit de Corneille. Marie-Clémence Régnier, là, avec cette volonté de mettre en avant Corneille, c'est aussi l'idée d'utiliser une des grandes figures de la littérature française, et quitte peut-être à, je ne dis pas tricher, parce qu'il y a tous ces éléments qui sont factuels, mais enfin bon, à construire une image.
Oui, et vous aurez apprécié le son de clavecin tout à l'heure dans l'extrait que vous avez passé. Alors oui, en fait, construire à partir de pas grand-chose, notamment pour les écrivains du XVIIe siècle et même pour les écrivains antérieurs, on n'a plus grand-chose à montrer dans les maisons au XIXe siècle et depuis le XIXe siècle. Ça va être tout l'enjeu de meubler ces maisons. Et les hommes du XIXe siècle ne sont pas très très scrupuleux en fait en la matière. Ils ne vont pas s'embarrasser de ce problème, quitte effectivement en fait à mettre en scène au sens théâtral du terme l'intérieur de l'écrivain et même à reconstruire finalement la façade en extérieur. Le cas de la maison de Corneille est vraiment un cas d'école, puisqu'en fait on est passé des ruines d'une belle ferme normande, mais qui était vraiment usée par le temps, à un manoir néo-normand. Et les architectes du département de Seine-Inférieure, comme on les appelait à l'époque, vont reconstruire en fait la ferme pour en faire un manoir néo-normand qui est conforme au goût et à la mode de la fin du 19e siècle. Et à l'intérieur, même souci de mise en scène pour plaire aux contemporains, on va mettre un mobilier d'époque, mais qui n'était pas du tout celui de Corneille. Et puis, on va agencer les choses pour suggérer la vie d'un écrivain qui vivait en ermite, en bon père de famille. Et là encore, donner en fait une image à la fois de simplicité et de grandeur dans cette maison.
Marie-Clémence Régnier, dans Vies en close, demeures écloses, et là je fais les liaisons pour bien montrer qu'il y a des pluriels, vous parlez de normandisation. Alors expliquez-nous ce que signifie cette normandisation, le normand que je suis. On est sensible.
Alors oui, c'est effectivement un néologisme, une création que je me suis autorisée pour désigner en fait l'idée selon laquelle les maisons musées au XIXe siècle et depuis ça n'a pas cessé sont en fait des monuments de proximité et des monuments qui sont fortement ancrés dans un territoire. Et les petites patries, comme on les appelait au XIXe siècle, hein, Anne-Marie Thiès a consacré des lignes très intéressantes au sujet, les petites patries, c'est-à-dire les localités, vont s'approprier les écrivains et leurs monuments, et tout particulièrement la petite patrie normande, qui bénéficie d'une position géographique très intéressante, hein, non loin de Paris, en même temps elle a ses spécificités architecturales, linguistique, culturel, patrimonial, et ces grands hommes vont devenir vraiment des figures de représentantes extrêmement importantes. La normandisation, ça consiste donc en fait pour la Normandie à soigner, à travailler l'identité normande de ces grands hommes et de son patrimoine. En l'occurrence, Pierre Corneille et ses maisons, et donc mettre en avant, mettre en lumière des traits caractéristiques de la région. Par exemple, la maison de Petit Couronne, comme la maison natale de Rouen, vont faire l'objet en fait hein, d'une rénovation de leur façade et on va y appliquer par exemple des colombages, puisqu'on associe l'architecture normande aux colombages.
Avec d'autres auteurs, oui. Hein, parce qu'il y a Flaubert, il y a Maupassant, le phénomène est similaire pour ces autres auteurs ?
Oui, ça va être le même phénomène de fond, en fait. On va aussi insister sur leur caractère. On va dire, conformément à un certain nombre de critiques de l'époque, que le tempérament est comme ceci, comme cela. Donc Corneille, ça va être la tempérance, la simplicité, une certaine rugosité aussi qui serait le fait des Normands. Et puis, pour des auteurs qui sont un petit peu plus difficiles à normandiser, parce que, par exemple, un Flaubert est très réticent hein, par rapport à la bourgeoisie normande, par rapport aussi à l'équipe municipale rouennaise. Pour ces auteurs qui sont plus difficiles à normandiser, qui n'étaient pas très favorables aussi à ce genre d'appropriation, eh bien, on va trouver quand même des solutions pour le faire. Et les maisons vont être un bon terrain pour ça, parce que si l'écrivain lui-même, dans son mode de vie, dans son caractère, ne s'y prête pas, la maison, elle est ancrée, elle est sur un territoire. Et donc, on peut jouer sur son architecture, on peut aussi valoriser le paysage alentour. Donc, il y a tout un tas comme ça, il y a tout un arsenal, si j'ose dire, hein, de moyens pour normandiser un auteur et pour vraiment l'ancrer dans le territoire et en faire un enfant du pays.
Avec Flaubert, en plus, nous avons un auteur, mais de talent. Quel talent ! Mais quel grognon aussi ! Oui, mais quel talent !
Lettre de Monsieur Gustave Flaubert à la municipalité de Rouen au sujet de son refus d'accorder un emplacement de 4 mètres à une fontaine surmontée du buste de Louis Bouillet, dont une souscription publique a fait les frais. Conservateur qui ne conservait rien. Pour être respecté par ce qui est au-dessous, respectez donc ce qui est au-dessus. Avant d'envoyer le peuple à l'école, allez-y vous-même. Classes éclairées, éclairez-vous. À cause de ce mépris pour l'intelligence, vous vous croyez plein de bon sens, positif, pratique. Vous ? Pratique ? Allons donc. Vous ne savez tenir ni une plume ni un fusil. Tout votre effort intellectuel consiste à trembler devant l'avenir. Imaginez autre chose. Hâtez-vous. Ou bien la France s'abîmera de plus en plus. Entre une démagogie hideuse et une bourgeoisie stupide.
Eh oui, c'est Gustave Flaubert, lu par Raphaël Laloum en 1872. Alors, c'était dans la volonté de placer une statue, un buste d'un de ses amis poètes, un tant Martinet oublié, disons-le, Marie-Clémence Régnier. Bah, cela fait écho à ce que vous nous disiez sur la visibilité de ces auteurs dans l'espace public, des statues, pourquoi pas des noms de rue aussi, j'imagine. La maison, c'est encore autre chose. Gustave Flaubert, ici, s'exprime clairement sur le refus de la municipalité de montrer son ami dans la rue.
Oui, effectivement. Alors c'est un texte qui est vraiment essentiel hein, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il y a plusieurs enjeux qui sont soulevés ici par cette lettre. Louis Bouillet, c'est un poète, ma foi, de bonne facture, mais qui n'a pas du tout l'étoffe hein, d'un des poètes de son temps. Même à l'époque de Flaubert, il est tout de même assez secondaire, hein, si je puis dire, sans vouloir faire offense à Louis Bouillet. Et donc, en fait, les municipalités, comme les autres d'ailleurs échelons hein, de la puissance publique, sélectionnent leurs grands hommes. Et plus on est reconnu aussi de son temps, plus on est consensuel, hein, plus on est prêt d'intégrer dans les hautes sphères, plus on a une chance d'avoir quand même effectivement un nom de rue, un mémorial, une statue. Donc ça déjà, Flaubert ne l'ignore pas et il sait très bien que son ami n'est pas dans les priorités hein, de la municipalité de Rouen. Et alors pour répondre aussi, faire écho à ce que vous disiez sur la toponymie, donc il y a plusieurs possibilités pour une mairie, pour une commune d'honorer les enfants du pays. Il y a bien sûr la statuaire. À la fin du 19e siècle, hein, on sait à quel point c'est important. Plus encore dans le dernier quart du 19e siècle et au tournant des 19e et 20e, il y a la toponymie, donc consacrer un nom de rue effectivement à un grand homme, ou encore mettre en place un mémorial et la maison musée d'écrivain avant de devenir musée peut être un mémorial. Donc on peut mettre une plaque commémorative sur la façade par exemple, sans forcément derrière muséaliser la maison. Alors une petite précision tout de même s'impose à deux égards. Par rapport à la toponymie, de façon assez remarquable, certains noms de communes portent le nom également d'un grand homme ou d'un domaine, d'une terre associée à ce grand homme, quand le grand homme était un propriétaire et un aristocrate. Hein. On peut citer par exemple hein, pour Vigny, le nom de Vigny accolé à une commune. On peut penser aussi à Lamartine hein, en Bourgogne. Ou encore Ferney-Voltaire. Ferney-Voltaire, dès 1793, le maire de la localité décide d'accoler le nom de Voltaire et de ses terres, donc au nom de la commune où il a vécu et où il a été très actif. On a aussi des rues, donc Victor Hugo, Pierre Corneille, etc. Victor Hugo sera le premier et le seul hein, pendant très longtemps à avoir un nom de son vivant et à pouvoir se féliciter d'inviter les gens en son avenue. Nul besoin de préciser les choses sur l'enveloppe d'invitation. Et puis l'autre précision, c'est que la statuaire qui est consacrée à une figure d'écrivain, c'est en fait tardif et c'est très circonscrit, c'est très réglementé. La statuaire, pendant l'essentiel du 19e siècle, elle est consacrée à des figures d'hommes d'État, d'hommes politiques, d'hommes d'église. Les écrivains n'ont normalement pas droit à avoir leur statut dans l'espace public. Il peut y avoir des statues dans l'espace privé ou dans des espaces très précis, comme au Louvre, hein, la Galerie des Grands Hommes. Et dans l'espace public, les écrivains ont leur statue si et seulement si cette statue est liée à une fonction utile, revêt une fonction pour la cité. C'est le cas de Louis Bouillet, en fait. Hein, Louis Bouillet n'aurait de toute façon pu avoir sa statue que parce qu'il était, son buste était apposé sur une fontaine, au-dessus d'une fontaine. C'est la même chose pour Molière, qui est l'un des premiers écrivains à avoir sa statue dans l'espace public. Et si c'est possible, hein, on parle de Molière, donc là tout de suite on est face à un écrivain d'envergure, hein, bien évidemment, un père de la nation. Mais là encore, au milieu du 19e siècle, cela n'a été possible que parce que cette statue surmontait une fontaine.
Et voilà, d'accord. Je saisis bien avec ici l'évocation de Corneille et de Molière, qui sont des grandes figures. Quant à Molière, on sait bien qu'il a eu plusieurs maisons natales. En tout cas, il y a beaucoup de discussions autour de la maison natale de Molière. Marie-Clémence Régnier, dans cette histoire des maisons-musées liées à des écrivains et à des écrivaines, est-ce que dans un premier temps, ce sont des figures anciennes qui sont mobilisées? Mais j'ai l'impression que le mouvement, qui va quand même très très vite à la fin du 19e siècle, fait que rapidement, des auteurs et des autrices contemporaines sont aussi honorés à travers leur maison.
Oui, en fait, la prise de conscience des écrivains, des artistes, des savants, des érudits, s'opère autour des figures des grands écrivains du passé, et notamment du siècle de Louis XIV, comme le 19e siècle aime à l'appeler, à le caractériser, donc le 17e siècle. Donc c'est autour des grandes figures, et j'ai envie de dire du trio de tête Molière, Racine et Corneille, que la prise de conscience opère. En fait, on se rend compte que si on ne fait rien autour de ces maisons, quand on est capable encore de les identifier, hein, ça c'est un autre sujet, mais si on ne fait rien autour de ces maisons, elles vont disparaître. Or, évidemment, les villes changent, les campagnes aussi changent, et le 19e siècle, les hommes du 19e siècle ont conscience de cette labilité, de cette fragilité des monuments, du fait qu'elles peuvent, que ces monuments peuvent tomber en ruine, et donc il faut les protéger. Et autour de ces grands hommes, les contemporains, les écrivains du 19e siècle vont se dire « Mais après tout, la maison peut devenir mon monument. Je peux accéder à la postérité par mon œuvre. Mais je peux aussi investir mon intérieur, ma maison. » Et les écrivains vont se faire architectes et intérieurs de leur demeure et concevoir leur demeure comme une œuvre d'art et comme un monument à part entière qu'il s'agit de faire passer effectivement au regard public, qu'il s'agit de faire connaître par la presse, par les proches. Et certains d'entre eux vont même considérer qu'il faut les patrimonialiser, hein, les faire leur donner un intérêt auprès d'une communauté élargie, auprès de la nation. C'est ce que fera notamment un Victor Hugo. Donc c'est vrai que les écrivains du 19e siècle et les écrivaines, il ne faut pas les oublier, elles sont assez peu nombreuses sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais les écrivains et écrivaines du 19e siècle vont prendre conscience que leur maison peut devenir un monument qui les fera passer à la postérité, qui conservera leur souvenir dans la pierre. Et ils vont aussi investir les lieux en artistes, en créateurs, et en faire des créations géniales autour, au plan architectural comme au plan décoratif.
Marie-Clémence Régnier, Victor Hugo avec ses maisons, nous connaissons celle de la place des Vosges à Paris et puis celle de Guernesey. Je vous propose que nous nous arrêtions un moment sur cette figure de Victor Hugo parce que, et vous l'avez rappelé, combien Victor Hugo, sous la Troisième République, devient l'écrivain incontournable et presque la figure tutélaire de la littérature française, avec Victor Hugo qui, dans les années 1830, portait un regard sur ce monde en transformation, la guerre aux démolisseurs.
Il faut le dire, et le dire haut. Cette démolition de la vieille France que nous avons dénoncée plusieurs fois sous la Restauration se continue avec plus d'acharnement et de barbarie que jamais. Depuis la révolution de juillet, avec la démocratie, quelque ignorance a débordé et quelque brutalité aussi. Dans beaucoup d'endroits, le pouvoir local, l'influence municipale, la curatelle communale a passé des gentilshommes qui ne savaient pas écrire aux paysans, qui ne savaient pas lire. On est tombé d'un cran. En attendant que ces braves gens sachent épeler, ils gouvernent. La bévue administrative, produit naturel et normal de cette machine de Marly qu'on appelle la centralisation, la bévue administrative s'engendre toujours comme par le passé, du maire au sous-préfet, du sous-préfet au préfet, du préfet au ministre. Seulement, elle est plus grosse.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Guerre aux démolisseurs, c'est Victor Hugo dans la Revue des Deux Mondes en 1832, une lecture de Thomas Beau dans le cours de l'histoire. Thomas qui réalise cette émission avec à la technique d'Alia. Marie-Clémence Régnier, alors en 1832, après avoir été royaliste près du roi sous la Restauration, puis royaliste près de l'autre roi sous la monarchie de Juillet, et avant de devenir républicain, Victor Hugo ici s'attaque aux démolisseurs. C'est un peu ce que vous nous expliquez, c'est la crainte que dans ce monde en pleine transformation, ces traces du passé aussi disparaissent.
Oui, exactement. C'est un texte vraiment fondateur hein, pour la reconnaissance des monuments qu'on appellera progressivement les monuments historiques. Et on mettra en place toute une réglementation pour les protéger. Mais Victor Hugo a sans doute marqué hein, d'une pierre d'angle ce débat et cette politique de conservation avec ce texte. On connaît un peu moins le rôle d'autres écrivains, mais un Balzac hein, aussi a beaucoup vitupéré contre la politique de destruction du vieux Paris et des monuments dans la première moitié du 19e siècle. Et puis, ce débat continuera d'occuper beaucoup les écrivains. On sait que Prosper Mérimée a eu une double casquette d'écrivain, mais aussi d'inspecteur des monuments historiques. Cette thématique occupe son œuvre, la hante. Et puis, l'engagement des écrivains ne cessera jamais totalement, hein, si l'on pense aussi au texte que Maurice Barrès hein, consacrera à cette même question dans l'héritage de Victor Hugo, avec un souci pour tous ces écrivains, c'est de protéger sans forcément faire de tri entre les différents auteurs et les différents types de monuments. C'est-à-dire que, de même que tout à l'heure, Flaubert réclamait un buste pour Louis Bouilly, qui est un poète de second rang, qui était son ami, il faut le dire aussi, mais de même que Flaubert donc défend la candidature à la postérité de Louis Bouilly par un buste, de même les écrivains que j'ai mentionnés tout à l'heure défendent qu'il ne faut pas simplement sauver une grande cathédrale ou encore un château par exemple, même les monuments plus humbles, qui ne présentent pas un intérêt comme ça évident aux yeux de la grande histoire avec un grand H, même ces monuments méritent attention et méritent qu'on s'intéresse à leur sort futur. Les maisons d'écrivains, à ce titre-là, peuvent être protégées et valorisées, hein, d'où l'illustration hein, sur le livre dont vous parliez tout à l'heure, qui a trait à une maison de villégiature de Molière près de Paris. Mais c'était sa maison de villégiature, c'est ni sa maison natale, ni sa maison mortuaire, et c'est pas la Comédie française non plus au cœur de Paris. Donc même l'humble monument peut faire l'objet de l'attention publique et d'une valorisation.
Voilà, c'est ce qu'on voit en couverture de votre livre, hein, Marie-Clémence Régnier, Vidant Close, Demeures et Closes. C'est cette représentation, et on l'entend bien idéalisée, hein, d'une demeure de Molière, avec Victor Hugo qui s'inscrit donc dans ce mouvement, mais romantique, dans les années 1830, un regard particulier sur le patrimoine, avec l'idée aussi de mettre en avant de grandes figures de notre histoire, l'histoire littéraire. Et puis, il y a la volonté de mettre en patrimoine des maisons d'écrivains, mais aussi l'idée avec Victor Hugo de fabriquer ce patrimoine.
Oui, Hauteville-House, Guernesey, c'est la seule maison ayant appartenu à Victor Hugo. La maison de l'exil, achetée après l'énorme succès des Contemplations. La poésie sauve Hugo. Du jour au lendemain, c'est presque la fortune. Pendant 10 ans, il la rénove, la décore avec génie, démesure. Il devient architecte, ébéniste, tapissier, sculpteur, dessinateur. Tout porte la marque et la puissance de la volonté du propriétaire. Résultat, jamais le visiteur n'a l'impression d'être dans un musée, mais dans une somme qui réunit toute l'œuvre de l'auteur des Misérables. Des murs recouverts de panneaux de chêne sculptés, des tapisseries au plafond, des portes d'armoire normandes qui s'ouvrent sur des salons, d'autres portes transformées en tables, des pieds de lit, des colonnades intégrées à des meubles massifs, et encore un incroyable mélange de styles gothique, rococo, victorien et j'en passe. Pièces rouges, blanches, bleues, vous avez compris. Et puis, le sanctuaire du maître, en fait un belvédère tout en verre, installé sur le toit face à la mer, émotion, on imagine bien le poète debout. Il écrivait toujours debout, devant une plaque de bois noir, écrivant, oui, la légende des siècles, regardant les côtes de France, lui, l'exilé de Guernesey. Adèle Hugo, vous m'entendez bien, Adèle, c'est l'arrière-arrière-petite-fille, pour la première fois, qui visite cette maison. Écoutez-la.
Au premier abord, je suis très émue, étant donné que je ne suis jamais venue ici, et c'est une maison où mon ancêtre a habité, et mon père, Jean Hugo, a habité un petit enfant, il était souvent ici, donc je suis quand même très très émue de voir cette maison qui est de ma famille en fin de compte.
Bien oui, nous sommes aussi très émus d'entendre cette archive de 1984, c'était au moment du centenaire de la mort de Victor Hugo, pour l'année 85 qu'avait été imaginée cette visite d'Adèle Hugo à Guernesey. Et c'est vrai, hein, comme le dit l'archive, nous imaginons Victor Hugo ici, la mèche au vent, en train d'imaginer un futur pour la France et une relecture de son histoire. Cette maison, Marie-Clémence Régnier, cette maison de Victor Hugo à Guernesey, c'est une œuvre, c'est la volonté aussi de créer une demeure particulière pour lui-même, pour sa famille, mais pas seulement, et c'est cela que l'on entend déjà, c'est pourquoi pas en faire un lieu, alors de patrimoine évidemment, mais de visite aussi.
Oui, alors la maison d'Haute Villahausse, c'est une maison de famille de fait, puisque Victor Hugo s'y installe avec ses enfants, avec son épouse. Il a pris le soin aussi d'installer Juliette Drouet non loin de là, à quelques centaines de mètres. Donc c'est une maison de famille, mais très rapidement en fait, cette dimension est bien faible, puisqu'en fait il va aménager la maison comme une maison symbolique, comme un sanctuaire pour le poète romantique qu'il est, pour la vigie qu'il veut être effectivement depuis l'exil vis-à-vis de la France. Il a le souci de redresser la France, de l'affranchir de Napoléon III. Et donc très rapidement, cette maison, il va l'aménager de façon très très symbolique. Il va faire construire effectivement des meubles sur lesquels il va faire graver des devises. Il va consacrer une chambre à Garibaldi, qu'il voudrait faire venir chez lui au moment de l'indépendance de l'Italie. Donc ça va vraiment être une maison qui va revêtir un caractère symbolique et politique. C'est un espace qu'il conçoit comme tel, c'est un espace politique, c'est un espace d'où il va créer ce personnage vraiment de mage et de poète protecteur de la France, un espace qui s'ouvre aussi aux idées de la République. Et l'architecture donc le montre.
Avec ici Marie-Clémence Régnier, la volonté d'explorer ces maisons d'écrivains et d'écrivaines dans le cours de l'histoire. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'université d'Artois, c'est à Arras, et une communication, un tantinet arrassé aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Visite intime des maisons d'écrivains et d'écrivaines, il n'y a rien de tel.
Il y a sûrement des gars qui se promènent avec le cœur tout plein de soucis. Pour tous ces gars qui ont eu de la peine, ma maison n'est pas loin d'ici. Bien sûr, chez moi, c'est pas immense, mais il y a quand même un bout de jardin. Quand on a le cœur dans la souffrance, de voir des feuilles, ça fait du bien. Si t'as des misères, viens donc prendre un verre, viens à la maison. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. Si tu préfères la musique, ma femme te jouera du piano. Puis si ça te rend mélancolique, ben moi je te ferai mon numéro. Tu nous raconteras tes peines. Et si tu sens venir les pleurs, eh ben mon vieux, faut pas que tu te gênes. De pleurer, ça soulage le cœur. Si t'as des misères, viens donc prendre un verre, viens à la maison. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. Et si vraiment y a rien à faire pour t'éviter d'être malheureux, moi, je te raconterai mes misères, ça nous fera bien rire, tous les deux. Car vois-tu, bien mieux que les pattes nôtres et sûres comme un et un fond d'eux, au fond, il n'y a que le malheur des autres qui nous empêche d'être malheureux. Si t'as des misères, viens donc prendre un verre, viens à la maison. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as pas eu de veine, puis si t'as de la peine, viens à la maison.
Robert Lamoureux, fantastique Robert Lamoureux, qui vient à la maison parce que il y a de l'intime dans cette histoire des maisons d'écrivains, maisons d'écrivaines, vies en close, demeures écloses, Marie-Clémence Régnier. L'intime a sa place ici. La maison de Victor Hugo à Guernesey est une maison imposante. Là, nous sommes avec la figure de l'écrivain absolu, du génie, tel qu'il se conçoit et tel qu'il est d'ailleurs. Et puis, dans le même temps, d'autres maisons sont présentées beaucoup plus intimes.
Oui, effectivement. Alors, avec Victor Hugo, on est effectivement dans une des mesures, une maison qui est hantée par ses initiales VH, hein, qui les présente partout. Un Victor Hugo qui, de son vivant, pendant qu'il explore un petit peu le continent, fait accueillir par ses domestiques les premiers touristes de maisons d'écrivains. Donc, il a déjà compris que sa maison avait vraiment une envergure publique, nationale, internationale. D'autres écrivains, effectivement, aussi vont être plus scrupuleux de leur intimité. Alors, certains vont complètement fermer leurs portes et considérer que la maison doit rester privée. C'est le cas d'un Flaubert. Et puis, d'autres vont protéger, en fait, leur espace domestique, vont l'ouvrir à des intimes qui vont témoigner de leur mode de vie, mais qui vont témoigner de façon indirecte dans une certaine presse artiste ou dans des reportages dans lesquels ils vont poser, mais de façon assez artificielle, et finalement ils vont en montrer, mais très peu. Donc ça va être vraiment l'enjeu pour ces écrivains et ces écrivaines quand ils vont faire le choix d'ouvrir au regard public, aux curieux, leur vie privée et leurs intérieurs. Ça va être de savoir comment ouvrir la focale, jusqu'à quel point entre-ouvrir en fait la porte. Et là, toutes les stratégies sont bonnes. Et on peut en varier de stratégie, effectivement, d'une fois sur l'autre également, d'un titre de presse à l'autre et de période à une autre.
De toutes les maisons que vous avez habitées, vers laquelle retournent le plus volontiers vos souvenirs ?
Oh, ma maison natale, naturellement. C'est une maison de village. Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille. Elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 15 cents habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire et le certificat d'études. Mais vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Certainement pas, Madame Colette.
Nous étions en 1951 avec cette archive. Marie-Clémence Régnier, avec Colette, nous avons ici l'association d'une écrivaine et d'un lieu, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Mais c'est intime et c'est une force qui fait qu'il y a la fierté locale, bien sûr, mais on l'entend dans cette archive, la volonté par l'autrice de revendiquer ce lieu.
Oui, alors on peut citer Colette, on peut aussi mentionner Georges Sand qui est inséparable également de Nohant, hein, dans le Berry. En cette année 2026, il est important de rappeler aussi cet exemple-là. Alors pour en revenir à Colette, c'est amusant ce que vous dites parce que c'est une fierté locale. Alors ça a été très compliqué pour Colette parce que aujourd'hui il paraît évident d'associer Colette à Saint-Sauveur et on peut même parler d'harmonie, hein, tant la maison occupe une place importante dans le développement de la ville, dans son image. Elle est totalement maintenant intégrée effectivement à la vie locale, cette maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye en Bourgogne. Mais ça n'a pas du tout été le cas pendant extrêmement longtemps. Les choses se sont même très mal passées pendant un certain temps du vivant de Colette. Colette, en fait, quand elle parle des habitants de Saint-Sauveur dans son œuvre, sous couvert de changer les noms des personnes, le nom même du village, Colette ne parle pas de façon très positive hein, de ces personnes, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle parle aussi d'un village qui est très fermé, très obtus, qui va rejeter sa famille. Elle va d'ailleurs devoir déménager de Saint-Sauveur et abandonner sa maison. Ça a été un traumatisme pour elle. Et donc, au moment où Colette entre en fait dans la reconnaissance, hein, elle est honorée partout, il va être question d'apposer une plaque commémorative sur sa maison natale. Donc la municipalité va le faire, hein, ça devient courant dans l'entre-deux-guerres, la maison devient effectivement un monument public privilégié pour les écrivains. Mais Colette ne pourra pas sortir de sa voiture. Hein. Elle va être accueillie vraiment de façon extrêmement froide, voire virulente par certains habitants qui sont toujours très marqués par la satire au vitriol qu'elle a faite hein, dans les Claudines et dans la maison de Claudine qui n'est guère plus positive. Et les choses vont mal se passer. Ça n'est vraiment que très tardivement que les relations vont s'apaiser et même après sa mort, finalement, que la commune va se réapproprier son enfant du pays et ce patrimoine architectural, cette maison qui est aujourd'hui une maison vraiment splendide, restaurée très fidèlement à partir des textes mêmes de Colette.
C'est passionnant d'entendre l'évolution de la perception de la maison de Colette, parce que dans chaque cas, nous sentons que nous avons une voix particulière, une voix originale. Ce n'est pas la même chose, en tout cas avec George Sand et Nohant.
Nohant, le 15 juin 1839, à Charlotte Marliani. On dîne en plein air, les amis viennent, tantôt l'un, tantôt l'autre. On fume, on jase, et le soir quand ils sont partis, Chopin me joue du piano. Le 20 juin 1839, il a un beau piano, et il nous enchante du matin au soir. Il a fait déjà des choses ravissantes depuis qu'il est ici.
Ah bien, c'était la maison de sa grand-mère, c'était la maison de sa petite enfance. C'est là où elle s'est élevée, où elle a vécu librement, où elle est revenue quand elle est sortie de sa pension, là, dans le 5e arrondissement, rue des Fossés Saint-Bernard. Elle a retrouvé ses paysans, ce village, ce hameau. Enfin, on peut dire que depuis qu'elle a vécu à Nohant, elle a créé, recréé Nohant, ce village qui est maintenant un lieu de pèlerinage pour tous les fervents de la littérature française, de l'époque du romantisme, et où tous les plus grands écrivains sont venus, du temps qu'elle y habitait, les musiciens et combien d'autres. Les gens, paysans de la vallée noire, là-bas, ne se rendent pas bien compte. Et somme toute, elle faisait vivre presque tout le village. Elle avait tellement d'employés, tellement de personnes qui vivaient à sa table, une domesticité nombreuse, bien sûr, et qu'elle était devenue la bonne dame de Nohant. Elle a fait le bonheur de cette petite région, de ce lieu-dit qu'elle a créé, puisque la Vallée Noire, avant elle, n'existait pas, que c'est elle qui va donner ce nom, qui l'a ainsi baptisé.
Albert Fournier, qui s'exprimait à propos de la maison de George Sand à Nohant, nous étions en 1971. Ici, Marie-Clémence Régnier, avec George Sand, c'est au-delà de la région, c'est le Berry, c'est une vie complète qui, autour de l'autrice, se construit avec l'autrice qui utilise cette région pour faire son œuvre, et c'est cette authenticité recherchée sans doute, et puis la région elle-même qui d'un seul coup profite de l'aura de l'autrice.
Oui, effectivement, c'est un cas assez exemplaire, hein, le cas de George Sand, parce qu'effectivement, ça n'est pas simplement la maison de Nohant, le parc de Nohant qui sont concernés par cette patrimonialisation et qui sont auréolés de la gloire de George Sand. C'est tout le pays de George Sand, comme on l'appelle aujourd'hui. Hein, le pays de George Sand désigne c'est un territoire assez vaste, hein, autour de Nohant. Et le pays de George Sand, qu'elle a valorisé dans son œuvre, qu'elle était très très attachée, ce pays va aujourd'hui fêter sa bonne dame, comme le rappelait l'extrait sonore. Et il y a vraiment tout un territoire qui se passionne pour cette figure. Il faut dire que George Sand non seulement aménage les lieux, mais que autour de qui viennent de sa famille, hein, elle hérite de ce domaine de sa famille, mais elle va avoir le souci non seulement de parler du Berry et de la Vallée Noire dans son œuvre, mais elle va aussi développer une action sur place, hein, en tant que propriétaire, en tant que femme qui va vouloir aborder les choses de façon politique. Elle va vouloir mener une politique un peu sociale, hein, autour d'elle. Et les habitants, encore aujourd'hui, se rappellent de cette action très concrète qu'elle a eue sur le territoire.
Avec une action concrète sur le territoire de la part de George Sand, mais des figures qui ici s'imposent dans la volonté pour Colette de retrouver une authenticité. Mais George Sand, c'est un peu cela. C'est dans un monde marqué par l'industrialisation, peut-être retrouver des choses qui relèvent des temps anciens. Mais dans le même temps, ces maisons présentées ne sont pas des maisons très populaires. La figure de l'écrivain et de l'écrivaine qui transparaît à travers ces maisons sont des maisons de gens établis, des maisons bourgeoises.
Oui, alors effectivement, les maisons vont être en fait aux yeux des contemporains et évidemment le temps passant pour nous encore plus des havres de paix. C'est vrai, quand on visite une maison d'écrivain, on a l'impression de faire un voyage dans le temps. Et les maisons entretiennent, hein, cette illusion que nous visitons des bulles du passé et que rien n'a changé depuis l'époque de l'écrivain. C'est rassurant de se dire qu'il y a des lieux qui témoignent d'un mode de vie d'antan, qu'il y a des paysages préservés aux alentours, etc. Même si, hein, dans beaucoup de cas, il y a quand même eu comme je le disais tout à l'heure au sujet de Pierre Corneille, des scénographies, des muséographies, des mises en scène, tant du point de vue de la décoration, de l'aménagement intérieur, que de l'aménagement paysager alentour. Hein. Le jardin de Corneille que l'on voit aujourd'hui à Petit Couronne a fait l'objet d'un entretien et d'un réaménagement paysager qui en fait un lieu très bucolique. On ne sait pas si il est très vraisemblable que Corneille n'ait pas connu son jardin de cette façon-là. Et puis, c'est vrai aussi que on y cherche donc l'intimité. Et puis on y cherche une image finalement d'ermite. C'est l'image d'un écrivain que l'on voit à sa table de travail, inspiré par la nature alentour, inspiré par la quiétude de son domicile. Et donc il y a une mythologie de la figure de l'écrivain qui voit jour dans sa maison et autour de sa maison pour ces différentes raisons.
Avec ici la volonté d'avoir une figure particulière, donc un tantinet bourgeoise, mais surtout cet écrivain ermite qui pense, qui crée son œuvre. Ce sont ces vies encloses, demeures écloses qui servent de titre à votre ouvrage Marie-Clémence Régnier. Et il y a de l'émotion là-dedans. Il y a de l'émotion ne serait-ce que par la proximité de la personne qui écrit, mais aussi des personnages de son œuvre.
Paris retrouve une relique, ou plutôt, il la remet au jour. On avait oublié pendant 8 ans qu'entre les immeubles cossus de la rue Raynouard, une porte conduisait à cette petite maison au milieu d'un jardin, où, de 1840 à 1847, Balzac vécut sa vie gigantesque. On retrouve là les visages des grandes inspiratrices, Madame de Berny, celle qu'il nommait la Dilecta, et la comtesse Anska, l'étrangère, dont la pensée éclaira la fin de sa vie. Les choses ont retrouvé leur place. La vie de Balzac, son cadre, et la table Louis XIII, sur laquelle furent noircies les pages de la cousine Bette et du cousin Ponce, fait face à nouveau aux vitrines où s'alignent les personnages de la comédie humaine. Vautrin, la tendre et pitoyable Jenny Grandet, le colonel Chabert. Ces ombres ont définitivement chassé les soucis que rappelle l'escalier secret, par lequel Balzac, toujours en proie aux soucis d'argent, fuyait ses créanciers par la pittoresque ruelle Berton, qui, Dieu merci, n'a pas encore changé. L'alerte passée, Balzac reprenait à la fois ses rêves de génie et son bagne d'écrivain. Et pour tous ceux qui n'ont pas oublié le père Goriot et Rastignac, une émotion leur viendra devant cette table à écrire, ce bougeoir et cette cafetière, qui virent naître sous la main de ce bourreau de travail les 1000 personnages d'une œuvre si vraie qu'elle n'a pas encore fini de nous étonner.
le journal des actualités françaises. En 1959, la maison de Balzac est près de la maison de la radio, tandis que la maison de Nino Ferrer est près de La Fontaine, sachant que la rue La Fontaine est aussi près de la maison de la radio. Tout est dans tout.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout noir avec les petites filles et les à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Et c'est normal, c'est le progrès.
La maison près de la fontaine de Nino Ferrer dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, maison d'écrivains, maison d'écrivaines, ancrée la fierté locale à l'occasion de la parution de l'ouvrage Vies en close, demeures écloses, le grand écrivain français dans sa maison musée 1879-1937 de Marie-Clémence Régnier, avec cette question évoquée dans l'ouvrage: quel est l'avenir de la maison musée d'écrivains? Continuera-t-elle à l'avenir à jouer un rôle dans le passage à la postérité d'un écrivain? Sous quelle forme et pour qui? La question tient dès lors peut-être du tourisme, avec des endroits sans cesse visités, des lieux magiques et majestiques, ces maisons des illustres, recommandées, illustrées par le ministère de la Culture, ou alors la Fédération des maisons d'écrivains et d'écrivaines, des lieux touristiques avec tout ce qui s'ensuit.
Disons qu'à Colombey, on ne peut pas vendre n'importe quoi. Il faut que le touriste puisse rapporter quelque chose, si c'est pour des amis ou si c'est pour lui, enfin, mettre chez lui. Puis enfin, ça dépend des époques aussi. En ce moment, par exemple, c'est le touriste qui se souvient, qui vient ici se recueillir, qui remportera plutôt le bus général ou une assiette le représentant, enfin, vous voyez.
Qu'est-ce qu'il y a comme objet qui marche bien ?
Ça dépend des personnes. On vend des cartes postales. Par exemple, on vend des coupes-papier aussi, pour les jeunes. Alors, avec l'écusson, le général de Gaulle. Puis, il y a les bustes, il y a des crayons, enfin, il y a des assiettes.
Comment se comportent les touristes à Colombey ?
À l'époque des grandes vacances, c'est pas la même chose qu'en ce moment. En ce moment, les gens sont, enfin, je dirais même pensifs.
Ce sont plus des pèlerins que des touristes.
Oui, c'est vraiment le pèlerin maintenant.
En 1975, Colombey, les deux églises avec l'évocation du général de Gaulle sur le lieu où il a rédigé ses mémoires de guerre. Les touristes côtoient les pèlerins dans une maison qui est aussi une maison d'écrivains. Ce sont tous ces lieux à évoquer à travers ces maisons encloses, ces demeures écloses. Et dans la volonté de mettre en avant ces sites, il y a bien sûr certains lieux remarquables. Plus qu'une maison, parfois, c'est une chambre, comme avec Marcel Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais en tout genre, notre temps a la manie de vouloir ne montrer les choses qu'avec ce qui les entoure dans la réalité. Et par là, de supprimer l'essentiel, l'acte de l'esprit, qui les isola d'elle. On présente un tableau au milieu de meubles, de bibelots, de tentures de la même époque, fade décor qu'excelle à composer dans les hôtels d'aujourd'hui la maîtresse de maison la plus ignorante la veille. Marie-Clémence Régnier, ces maisons devenues sites touristiques, des lieux remarquables et d'ailleurs volontairement remarqués, connaissent une évolution que vous analysez. Cette évolution nous conduit vers quelle forme de site, hein ? 1879, la maison de Pierre Corneille, nous sommes dans l'évocation d'une grande figure de la littérature. Nous évoluons de quelle manière avec ces maisons d'écrivains ?
On évolue avec les mœurs d'aujourd'hui. La figure bourgeoise que vous évoquiez tout à l'heure à la fin du sujet sur Victor Hugo, évidemment, c'est une figure qui parle un petit peu moins aujourd'hui, hein, qui n'est plus celle que l'on recherche. On voit que les maisons d'écrivains s'intéressent beaucoup à la vie privée de l'écrivain, à son mode de vie, sa simplicité, son quotidien, sa famille. Aussi. Il y a vraiment un engouement aujourd'hui pour prendre en compte aussi la vie de famille de l'écrivain, la femme de l'écrivain, ses enfants, sa propre descendance, pour ses paysages, dans une relation de la maison à la nature environnante. Et puis les maisons se font centres culturels, accueillent des expositions d'art contemporain, des résidences d'artistes. Donc elles ne sont plus seulement centrées sur la figure du grand écrivain en majesté ou en pantoufles. Elles s'ouvrent à d'autres sujets, à d'autres modes d'expression. Et elles s'ouvrent aussi à d'autres sites. Souvent elles se mettent en réseau et créent des itinéraires touristiques, patrimoniaux et culturels avec d'autres sites. Ça rime à des festivals, etc. Donc ce sont des maisons qui sortent de leurs murs, si j'ose dire, qui s'ouvrent à d'autres formes culturelles de visite et de découverte.
Et je renvoie aussi à la série que le cours de l'histoire a consacrée à Pierre Loti et notamment sa maison de Rochefort. C'est à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, parce que s'il est une maison construite pour être un musée et devenue un lieu absolument remarquable, l'émotion est intense hein, quand on y va, c'est bien la maison de Pierre Loti. En quelques mots, juste pour terminer, Marie-Clémence Régnier, y a-t-il de la politique ici ? Parce que nous sommes sur des questions municipales. Est-ce que l'écrivain d'un jour peut être invisibilisé l'autre jour puisqu'il déplaît désormais ?
Oui, rappelons-nous de la leçon ex postérité de Flaubert vis-à-vis de Louis Bouilhet. Rien n'est jamais acquis. Hein. Il est déjà difficile d'obtenir son buste, sa maison d'écrivain, mais à tout moment, le sort de l'écrivain et de sa maison peuvent être remis en cause. La maison de Colette, qu'on citait tout à l'heure, a été très difficile à mettre en œuvre. Et puis, la presse locale est pleine dans ses rubriques patrimoine et culture de cas de cas de figure problématiques. Boris Vian, Privert à Paris, Le Grand Môle, Naïpineuil, enfin, rien n'est acquis. Les municipalités sont effectivement toujours prises à partie sur ces questions.
Merci beaucoup Marie-Clémence Régnier. Vise en close, demeures écloses. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, des gestes et des outils. Ah ben là, nous ne serons plus dans le monde bourgeois de l'écrivain. Nous allons exposer le monde paysan.
C'est tout ce monde qui disparaît. Ce monde des pays de France, des façons de cultiver la terre, d'élever le bétail, de se vêtir. C'est tout ce monde-là qui disparaît au travers de nos pays. Et c'est l'objet du Musée des Arts et Traditions Populaires de le conserver.
Georges-Henri Rivière à propos du Musée des Arts et Traditions Populaires dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix. Merci beaucoup Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy, Mayou Nguizio. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.